RCF.
Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Parce que parler de la santé mentale, ça n'a rien de fou. Eh bien, on prend justement 2 heures ce matin, vous l'entendez, pour en discuter sur RCF. On a, dans un premier temps, évoqué le système de soins psychiatriques qui est en danger d'implosion en France. On a essayé de faire un état des lieux, de regarder aussi quelles étaient les solutions ou les différentes pistes. On va s'intéresser plus spécifiquement jusqu'à 11 heures à un trouble mental qui a encore beaucoup d'idées reçues. Je parle bien sûr de la schizophrénie. Comment déstigmatiser ce trouble et comment, bien sûr, accompagner à la fois les patients et leurs proches? On va en discuter avec nos invités jusqu'à 11h et puis avec vos témoignages, vous le savez, au 04 72 38 20 23. Alors, si vous avez un proche qui a été diagnostiqué, comment est-il accompagné? Comment les accompagnez-vous? Et si vous connaissez des associations qui permettent cet accompagnement, ce soutien ou cette écoute, venez nous les présenter. Et si, bien sûr, si vous avez été diagnostiqué schizophrène, venez également nous parler de votre quotidien. 04 72 38 20 23. Vos messages par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et nous retrouverons, comme chaque jeudi, notre chroniqueuse Stéphanie Gallet en toute fin d'émission à 10h55 pour la chronique Jeudi Photo. Elle nous présentera une photo choisie par le CCFD Terre Solidaire et ça nous permettra de poser un regard assez différent sur certaines situations à travers le monde. Bonjour. Alors attendez, je regarde qui est présent dans cette émission. Bonjour Anastasia Benzaï.
Bonjour.
Merci d'être... On vous entend bien, alors bien c'est un grand mot, mais on vous entend à peu près. Merci d'être avec nous Anastasia dans cette émission. Vous avez 24 ans, vous souffrez d'un trouble schizoaffectif, c'est un type de schizophrénie, et vous avez été diagnostiqué il y a pas très longtemps, il y a un peu moins de 2 ans, et vous avez un objectif, un souhait, c'est vraiment de déstigmatiser les schizophrénies, ou la schizophrénie, on va justement voir un petit peu les différences de termes. Merci beaucoup Anastasia d'être avec nous. Bonjour Jean-Christophe Leroy.
Bonjour Metzger.
Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes l'organisateur des journées de la schizophrénie qui n'ont pas lieu en ce moment, je tiens à préciser. C'était en mars, c'est ça ?
Absolument. Chaque année en mars.
Chaque année en mars. Et vous êtes également le directeur de l'association Positive Minders, qui permet de là aussi de poser un autre regard plus généralement d'ailleurs sur les troubles psy. Pas forcément que la schizophrénie. Alors, la schizophrénie, ce terme, je le disais, qu'on connaît sans pour autant savoir ce qu'on met vraiment derrière. Assez rapidement, nous viennent à l'esprit beaucoup d'idées reçues, des clichés, des actualités également, comme ce qu'il s'est passé à Reims il y a quelques semaines avec cette infirmière Karen Mézino, je me permets de la citer, qui avait 37 ans, qui a été poignardée le 22 mai 2023 à l'hôpital de Reims par une personne diagnostiquée schizophrène. Bref, si vous êtes avec nous, Jean-Christophe Leroy, et puis également Anastasia Benzaï, et puis notre troisième invité qui va arriver dans un instant, c'est aussi pour faire tout un travail de déstigmatisation. J'aimerais, Jean-Christophe Leroy, qu'on commence par une question un peu naïve, et pourtant, vraiment, dans cette émission, ça va être important. Qu'est-ce que c'est la schizophrénie?
Alors, la schizophrénie, c'est une maladie du cerveau. C'est une maladie du cerveau qui touche... une personne sur 100, indifféremment, hommes et femmes. Il y a un petit peu plus d'hommes que de femmes. C'est une maladie qui a plein de caractéristiques extrêmement différentes et qui varie d'une personne à l'autre. Alors, dans les caractéristiques qu'on voit beaucoup au cinéma et qu'on a dans la tête, il y a la perturbation de la pensée. Souvent, on pense au délire, on pense à des idées tenaces, étranges, à parfois à un peu de paranoïa. Donc des choses que nous n'avons pas l'habitude d'ordinaire, à moins de prendre des psychotropes, on n'a pas l'habitude de les ressentir. Et puis c'est aussi au quotidien un certain nombre de choses qui sont que chacun a plus l'habitude de pouvoir faire, le lien social, la capacité à s'organiser, la capacité à ressentir des émotions qui sont perturbées et qui vont être diminuées. Alors on appelle ça des symptômes d'abord positifs, ouais. C'est ceux qui s'ajoutent et qui sont pas ordinaires. Et puis des symptômes négatifs, c'est des choses qu'on a d'habitude la possibilité de faire et qui sont diminuées dans le cas de la schizophrénie.
On parle d'ailleurs de la schizophrénie, mais de plus en plus, depuis quelques temps, des schizophrénies.
Oui, c'était même le thème de notre campagne cette année.
Et ben voilà.
Alors pourquoi des schizophrénies ? En fait, contrairement à beaucoup de maladies qu'on dit somatiques que vous ressentez, on a une façon de diagnostiquer qui est très particulière. C'est-à-dire que pour identifier une schizophrénie, il faut avoir quelques symptômes pendant une certaine durée. Et en fait, on s'aperçoit que les personnes qui ont un diagnostic de schizophrénie ont des symptômes qui sont assez différents. Alors Anastasia racontera les siens tout à l'heure ou David, mais en réalité, on n'a pas vraiment une cartographie de la schizophrénie ou des schizophrénies. On ne sait pas exactement comment les segmenter, comment organiser tout ça. Et bien souvent, d'ailleurs, dans 40% des cas, les personnes qui vivent avec ces troubles vont avoir plusieurs diagnostics dans leur vie.
Jean-Christophe Leroy, vous n'avez pas été diagnostiqué schizophrène ou par un trouble psychique. Pourquoi vous vous engagez pour cette cause ?
Ah ben, on ne s'engage pas par hasard. En fait, ouais. Je suis proche à la base. Hein, j'ai une histoire personnelle un peu particulière. Mon épouse a 24 ans de plus que moi, et donc quand je l'ai connue, ses enfants étaient déjà grands, ils avaient mon âge. Et son aîné, j'ai tout de suite trouvé qu'il avait des réflexions un peu bizarres, étranges. Mmh. Et quelques mois plus tard, il a été diagnostiqué. Il avait une schizophrénie, et il est rapidement devenu mutique. Il est resté mutique pendant 10 ans. Alors mutique, ça veut dire qu'il ne parlait plus du tout. Alors, ils pouvaient échanger, hein, on pouvait avoir des conversations, mais je faisais un peu un monologue ou mon épouse, et lui nous répondait par des sourires, par des clins d'œil ou par d'autres gestes qui nous permettaient de comprendre qu'il était pas d'accord ou d'accord. Et donc ça nous a amené à rentrer en contact avec plein de personnes qui avaient le même vécu que lui. On a découvert cet univers, on a été fascinés. Et on a aussi découvert l'énorme stigmatisation qu'il y a autour.
Ah bah ça,
et le besoin de déstigmatisation.
Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui dans Je pense donc j'agis. Anastasia Benzaï, là aussi j'aimerais qu'on apprenne à vous connaître un peu plus. Hein. Je disais tout à l'heure que vous avez été diagnostiquée d'un trouble schizo-affectif. C'est un type de schizophrénie, et ça rejoint ce que Jean-Christophe expliquait en disant qu'il n'y avait pas forcément une schizophrénie, mais des schizophrénies. Par quoi ça se décrit, ce trouble schizo-affectif, et comment s'est passé votre diagnostic ?
Alors, le trouble schizo-affectif, comme vous venez de le dire, ça s'apparente au spectre de la schizophrénie, mais ça s'apparente aussi à des symptômes du trouble bipolaire. C'est ce que la partie affective veut dire, que ça touche à tout ce qui est l'humeur, les émotions, etc. Donc, moi, mon trouble schizo-affectif, il m'impacte dans ma vie de tous les jours, même si je suis stable, sous traitement, sous thérapie, etc. Mais il touche principalement mes émotions, mon humeur, donc j'alterne entre des phases de dépression et des phases de manie, comme un trouble bipolaire, avec en plus ces délires, ces paranoïas que Jean-Christophe expliquait précédemment. Mmh.
Ça a été difficile pour vous, Anastasia, de mettre des mots sur ce qu'il se passait avant ce diagnostic, hein, chez vous. Est-ce que il y a eu une forme, on entendait ça tout à l'heure dans la première partie, c'est pour ça que je vous pose cette question, mais une forme de réticence, de déni aussi?
Alors oui, complètement. Le déni, c'est vraiment ce qui décrirait le mieux de ce qui s'est passé dans ma tête suite au diagnostic. Alors, il faut savoir que depuis plusieurs années, avant mon diagnostic, je savais que quelque chose, que j'étais différente d'une certaine façon des autres, et j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui me rendait si différente, dans le sens, dans mes réactions, dans mon organisation de vie, etc. Et du coup, quand j'ai eu le diagnostic, au début, ça a été un gros soulagement, dans le sens où Après plusieurs années à voir des psys encore et encore, on a enfin mis un mot sur ma condition. Et du coup, au début, ça a été un gros soulagement. Et puis après, ça a été le déni, dans le sens où il faut accepter bah, qu'on est malade, qu'on a un trouble qui nous impacte. Et que moi, personnellement, mon trouble, comme ce que je disais, les alternances de phases dépressives et maniaques, je peux aller très bien, extrêmement bien, être stable ou en légère manie. Et du jour au lendemain, je vais partir en dépression alors qu'il n'y avait aucune raison, entre guillemets, aucune raison qui me pousse à aller dans un down. Et pourtant, je vais aller dans un down et ça a été très dur à accepter que bah, toute ma vie va être rythmée par ces périodes de manie, stable, dépressive. Et du coup, ça a été très dur et même à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de mal à l'accepter. Mais je l'accepte de plus en plus quand même que... Bah, ma vie va être des montagnes russes pour toujours, quoi.
Et surtout que c'est assez récent, Anastasia, dans votre vie, puisque vous avez été diagnostiquée, je le rappelle, il y a moins de 2 ans. Jean-Christophe Leroy, ce sont des témoignages qu'on entend souvent, hein, de ce type. Voilà, il se passe quelque chose dans ma tête, hein, j'utilise ce terme. On ne sait pas trop ce que c'est. On le sait de plus en plus, par contre. Ça aussi, il faut le souligner, c'est-à-dire qu'on arrive de mieux en mieux à poser des diagnostics.
Alors, est-ce qu'on arrive de mieux en mieux à poser des diagnostics ? Je ne suis pas totalement sûr. Par contre, ce qui est vrai, c'est que on arrive à détecter des signes précoces et on arrive à... même si le diagnostic en fait n'est pas l'élément le plus important, on arrive à accompagner très précocement les personnes qui vivent ces troubles. Évidemment, il y a des barrières à cet accompagnement. La première barrière, c'est ce que Anastasia vient de décrire, c'est ce qu'on appelle l'auto-stigmatisation. En fait, ce qui a été appelé avant le déni, c'est un petit peu un symptôme, déjà. Vous imaginez que vous interprétez un peu mal des informations que votre cerveau capte.
Ouais.
Par exemple, si je vous dis toutes les lumières rouges, Melchior, autour de vous...
Oui, j'en ai beaucoup, là.
Il y en a beaucoup, hein.
Oui, il y a une guirlande rouge.
Derrière, il y a quelque chose qui vous observe.
Oui.
Voilà. Et en fait, ça s'active à chaque fois qu'il y a une lumière qui clignote. Vous allez interpréter ça, et en fait, tous les auditeurs peuvent le faire, faire ce réflexe-là. Et parce que je vous en ai parlé, maintenant vous fixez de temps en temps les lumières rouges. Et à chaque fois, vous allez repenser à ce que je vous ai dit. Et vous êtes en train de vous faire une histoire, parce que quand vous circulez, vous allez remarquer maintenant qu'il y a beaucoup plus de lumières rouges qu'avant. Alors ça, c'est un phénomène qu'on appelle la saillance, c'est une perturbation d'interprétation des informations. On n'arrive plus à prioriser les informations qu'on reçoit. Mais donc, si on donne une interprétation, on est totalement convaincu de cette interprétation. C'est pas que on a envie de délirer, c'est juste qu'on est totalement convaincu de ce qu'on vit. Alors comment on fait pour accepter que ce qu'on vit n'est pas la réalité ? Bah, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible. C'est un débat qui va exister entre nous et le reste du monde. On va avoir l'impression que les autres ont un problème quand même, parce que franchement, pour qu'ils arrivent pas à comprendre que tout ce qui clignote nous observe, c'est qu'ils sont absolument pas lucides. Et même que nous, on a peut-être un don ou une capacité à voir des choses que les autres n'arrivent pas à comprendre, quoi. Donc tout ça pour vous raconter que c'est pas vraiment du déni, c'est réellement que la personne, elle vit quelque chose. Après, il y a la question aussi soulignée par Anastasia de l'acceptation. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à accepter, ben finalement, même si on sait qu'il y a quelque chose qui quand même fait qu'on est différent, ben c'est pas pour autant qu'on va accepter de changer pour redevenir comme les autres. Voilà. Donc, il faut comprendre que dans la schizophrénie, ce qui est très important, c'est et dans tous les troubles psychiques en fait, c'est l'accompagnement précoce. Même si on diagnostique pas tout à fait juste, même si les diagnostics changent au cours du temps, je crois que Je sais pas, Anastasia, si c'était arrivé, mais en tout cas, les diagnostics changent très, très fréquemment. Chez les personnes qui ont un trouble schizoaffectif, c'est 60% des personnes qui avaient un autre diagnostic avant. Et donc, même si on diagnostique pas correctement, ça veut pas dire qu'on peut pas aider très précocement. Et déstigmatiser, c'est enlever, en fait, une barrière à cette aide précoce.
Et parfois, l'actualité n'aide pas dans tout cela, comme va nous le rappeler Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie.
Oui, bonjour. Merci de me rappeler. Ben, je suis Rémois, hein, donc on est aux premières loges concernées par les drames qui s'est passé au CHU de Reims. Hein. Je ne vais pas critiquer la psychiatrie parce que je crois que c'est très difficile. Mais malgré tout, il avait déjà, en 2017, essayé de tuer des gens. Et bon, depuis, je ne sais pas comment ça se fait qu'il y a eu un suivi qui n'a pas été suivi. Bon, mais je ne veux pas critiquer la psychiatrie. On a besoin des psychiatres. Hein. Ce que je voulais dire maintenant, c'est que je pense que les malades psychiatriques ne peuvent être suivis efficacement que dans le milieu public, à la différence d'autres maladies où on peut être suivi. Mais là, la psychiatrie, les schizophrénies, c'est quand même une maladie particulière qui a besoin d'un accompagnement, comme vous l'avez déjà dit. Et là, je vais parler de l'UNAFAM, où je suis bénévole depuis une vingtaine d'années.
Oui.
Et l'UNAFAM, justement, son leitmotiv, c'est un autre regard. Et c'est tout à fait ce qu'il faut, c'est déstigmatiser la maladie.
Et c'est ce qu'on fait ce matin dans Je pense donc j'agis. Merci Jean-Marie pour votre appel au 04 72 38 20 23. Jean-Christophe Leroy, vous avez suivi comme beaucoup de personnes l'actualité, hein, et ce drame au CHU de Reims. Je rappelle cette infirmière de 37 ans qui a été poignardée par une personne diagnostiquée schizophrène. C'est un drame, bien sûr. Quel est votre regard sur cette actualité? Il faut pas généraliser en disant c'est tous les schizophrènes qui sont pareils, bien sûr. Et c'est pour ça aussi qu'on a organisé cette émission, c'est en rapport avec cette actualité.
Oui, alors évidemment, la première chose qui est hyper importante, parce qu'on n'y pense pas tout de suite, ce drame, il crée deux choses, de la stigmatisation, et il crée des pertes de vocation. Des gens qui voulaient peut-être travailler en psychiatrie et qui vont choisir de ne pas y aller à cause de ça. Et en fait, on est face à une gestion du risque, c'est-à-dire que en effet, il y a des gens qui sont dangereux. Il y a des gens qui souffrent de schizophrénie qui sont dangereux. Il y a des gens qui souffrent de diabète qui sont dangereux. Il y a des gens qui souffrent de rien qui sont dangereux. Et il faut faire attention de ne pas exposer des soignants. Alors à l'hôpital psychiatrique, mais ailleurs, il ne faut pas exposer des gens à des dangers. Et là, en l'occurrence, il y a une mauvaise gestion du danger. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de personnes, il n'y a pas plus de meurtres commis par des personnes qui souffrent de schizophrénie que de meurtres qui sont commis par des personnes qui souffrent de diabète. Alors ça paraît complètement fou ce que je suis en train de raconter. C'est juste pour dire que la population des personnes qui souffrent de schizophrénie n'est pas plus dangereuse que la population générale. Ça, c'est un constat, c'est scientifique. Il y a eu plein d'études là-dessus, sur la dangerosité. En revanche, oui, il y en a qui sont dangereux et ils sont parfois bien identifiés. Et donc, il faut bien prendre toutes les mesures de sécurité autour de ces personnes-là.
Et donc, d'où ce besoin de déstigmatiser, de casser les idées reçues, les clichés. C'est ce que vous essayez de faire, vous, Anastasia Benzaï. Vous avez monté une chaîne YouTube qui s'appelle Qualatum. Est-ce que je prononce bien ?
C'est comme ça que ça se prononce.
Ah voilà, Qualatum, qui a pour but vraiment à la fois de d'essayer de déstigmatiser, comme je l'ai dit, et de répondre aux questions également des internautes sur les troubles de santé mentale, et notamment de la schizophrénie. Hein.
Alors oui, tout à fait. Il y a quelques semaines, c'était la semaine de la santé mentale.
Oui.
Et du coup, pour l'occasion, j'ai tourné deux vidéos où j'ai demandé à mes abonnés de me poser des questions liées aux santé mentale, enfin à la santé mentale et aux maladies mentales. Et du coup, j'y ai répondu dans ces deux vidéos sur les clichés, les préjugés. J'ai d'ailleurs eu quelques commentaires qui me disaient « Mais est-ce que tous les schizophrènes sont dangereux ?» etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ancré.
Et quand vous recevez ce type de témoignages, de commentaires, de questions d'ailleurs, comment vous réagissez? Est-ce que vous pensez que, allez, j'utilise ce terme, que c'est normal qu'il y ait ces clichés, ou alors ça vous fait mal et que vous vous rendez compte à quel point il y a un vrai travail là-dessus à faire?
Alors, personnellement, non, ça ne me fait pas mal, dans le sens où je pense que ce genre de commentaires viennent d'un manque d'informations, tout simplement. Mmh. Et parce que si on regarde les films hollywoodiens, les séries, etc., dès qu'on a quelqu'un qui est schizophrène, c'est souvent la personne tarée de l'histoire. Mais sauf que c'est pas du tout ça la réalité. C'est pas du tout. Enfin, on peut très bien avoir sa tête et souffrir d'une schizophrénie. Enfin, dans le sens où si on est stabilisé par thérapie, traitement, etc., on peut vivre une vie plus ou moins normale. Et du coup, oui, c'est un truc qui me tient vachement à cœur de déstigmatiser et de montrer que, bah non, on peut souffrir d'une schizophrénie et faire de grandes études, par exemple, ou avoir un talent artistique, ce genre de choses.
C'est le cas pour vous, hein, si je peux me permettre de donner plus d'informations sur vous, Anastasia, puisque vous avez repris vos études en master de physique théorique et votre domaine d'intérêt, c'est la physique quantique. Là, vous m'avez perdu en deux mots et vous êtes passionné par la peinture. Voilà, donc comme quoi, on confirme vraiment tout ce que vous dites. Et par contre, vous parliez de traitement. Vous, comment vous êtes traité depuis moins de deux ans maintenant? Est-ce que vous êtes traité d'ailleurs?
Oui. Alors moi, ça fait plus de deux ans que je suis traité. Je suis traité depuis 7 ans et demi. Mais on me donnait des médicaments sans forcément m'expliquer pourquoi je prenais ces médicaments. Au début, j'ai commencé à suivre un traitement pour traiter le syndrome post-traumatique suite à un événement catastrophique qui s'est passé dans ma vie. Et ensuite, j'ai continué à prendre un traitement et mon état de santé général et mental s'est dégradé jusqu'à ce que les psys s'accordent à dire que, en fait, je suis schizoaffective.
Voilà. On va continuer d'en parler dans Je pense donc j'agis ce matin avec vous deux, Anastasia Benzaï et Jean-Christophe Leroy. Dans quelques minutes, je l'espère, notre troisième invité nous rejoindra. Il s'agit de David Martinelli. Je crois qu'il est bloqué dans les bouchons ou dans le métro, mais il est pas très loin. Il a bientôt 40 ans, David, et il est schizophrène et il est père aidant à la Maison Perchée. C'est un très beau lieu qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Je rappelle que vous avez toutes et tous la parole pour témoigner. Si vous avez été diagnostiqué schizophrène, venez nous parler de votre quotidien. Et puis pareil, hein, si vous êtes proche, parents, grands-parents, amis, dites-nous comment vos proches sont accompagnés et comment vous les accompagnez. Et si vous connaissez des associations, des lieux qui permettent un soutien, une écoute, on a envie de les connaître au 04 72 38 20 23. On vous attend par mail à direct@rcf.fr. Et puis toujours, vous le savez, dans le groupe Facebook, Je pense donc j'agis, où vous pouvez poster vos messages qu'on lira ensuite en direct à l'antenne.
Depuis si longtemps, tu attends ce qui ne vient jamais. Chasseur d'ombre, chasseur de fantômes. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu veux vivre. Le temps t'échappe, le temps court, le temps s'enfuit. La chance apparaît puis disparaît. Ce que tu as sous la main, tu le prends. de suite dans l'instant. Tu vis. Depuis toujours, tu ne sais qu'espérer. La vie, c'est demain, demain, c'est loin. Ce que tu as sur la main, tu le prends. Ce que tu dois vivre, vis-le. Qui te porte, laisse-le t'emmener vers ton désir. Tu es la route, la poussière, le plaisir. Ce que tu veux.
Pour vous accompagner sur RCF en ce jeudi matin, la route.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Avec nos, ça y est, trois invités jusqu'à 11h. Jean-Christophe Leroy, ça n'a pas changé, vous êtes toujours l'organisateur des journées de la schizophrénie, directeur de l'association Positive Minders. Anastasia Benzaï, vous avez 24 ans, vous êtes avec nous parce que vous, votre objectif c'est de déstigmatiser tout ce qui tourne autour de la schizophrénie. Vous êtes personnellement, vous avez été personnellement diagnostiqué d'un trouble schizoaffectif. Et puis ça y est, notre troisième invité nous a rejoint. Bonjour David Martinelli.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCF. Vous avez bientôt 40 ans, je me permets de donner votre âge. Hein, comme ça, on entend trois générations ce matin, c'est formidable, ou presque. Vous êtes jardinier amateur, on aime beaucoup le jardin sur RCF. Vous êtes schizophrène, oui. David, et vous êtes père aidant à la Maison Perchée. Voilà pour le CV.
Exactement.
La Maison Perchée étant un très beau lieu qui se trouve à Paris, en région parisienne. Est-ce que vous pourriez nous le présenter? Parce que rien que le nom, la Maison Perchée, ça donne envie d'en savoir plus.
Alors l'association La Maison Perchée, elle a commencé pendant le confinement en 2020. Parce qu'il y avait, ils ont remarqué, les fondateurs, qu'il y avait un vide institutionnel en fait. À la sortie de l'hôpital, c'est vrai qu'on est un peu livré à nous-mêmes. On nous donne juste une ordonnance et un rendez-vous pour la renouveler et finalement il n'y a pas grand-chose pour nous accompagner. Et donc en fait, la Maison Perchée, c'est une association qui est composée de gens concernés par les troubles qui s'entraident. Donc c'est ça le principe un peu de la paire aidance. C'est des gens qui sont plus ou moins rétablis qui vont aider des gens qui le sont moins.
C'est destiné aux jeunes adultes, hein, voilà, comme vous, qui vit avec des troubles psychiques, avec une vraie communauté qui s'est créée autour de cette Maison Perchée. Il y a beaucoup de, à la fois de partage et d'écoute, surtout David.
Oui, tout à fait. Ben, on a plusieurs formats en fait. On peut fonctionner par groupe de parole, ou alors simplement ce qu'on appelle des nids, c'est des entrevues, une personne avec une personne. Et donc là, l'idée, c'est vraiment, oui, d'écouter, parce que c'est vrai qu'on peut pas trop parler dans la société actuelle à cause de la stigmatisation de nos troubles psychiques, alors qu'en fait, c'est très important d'un point de vue personnel pour s'épanouir en fait. Si on peut pas parler de ce qui on est vraiment, ça peut pas marcher.
Comment et quand avez-vous été diagnostiqué schizophrène, vous David, à titre personnel?
Alors moi c'était en 2011, donc j'avais 28 ans, ça veut dire qu'il y avait déjà un bon moment que j'avais des troubles qui n'étaient pas diagnostiqués. Et ça c'est un autre problème dont on parle souvent avec Positive Minder aussi.
Oui.
Le fait que les troubles, en fait, commencent et qu'il n'y ait pas de prise en charge avant un bon moment. Il n'y a pas d'intervention précoce.
Donc ça veut dire que finalement, vous avez attendu beaucoup de temps. Alors vous, je dis vous, ça veut dire qu'il a fallu que vous atteigniez l'âge de 28 ans pour être diagnostiqué. À quel moment, en fait, il y a eu ce diagnostic? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était une rencontre?
C'est une période où j'ai arrêté de fumer, en fait, et j'ai fait une grosse décompensation. Une énorme décompensation. Du coup, je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique et c'est là qu'on m'a donné le diagnostic.
Et là, comment vous avez réagi?
Ben, en fait, le diagnostic n'avait pas été immédiatement précis. On m'a juste dit que j'avais fait des épisodes psychotiques et qu'il fallait que je prenne un traitement qui allait sûrement durer toute ma vie. Ce qui est assez dur, en fait, à entendre. Malgré tout, je sais que certaines personnes, par contre, ont besoin d'un diagnostic pour se rassurer, pour savoir aussi comment faire pour gérer la maladie. Donc voilà, il y a les deux types de personnalités qui existent.
Jean-Christophe Leroy, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. On attend trop pour diagnostiquer.
Oui, alors on attend trop pour diagnostiquer. En fait, surtout on attend trop pour partager le fait qu'on a des difficultés, qu'on se sent pas bien, que... on aurait besoin d'aide. Enfin, demander de l'aide, c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. Que ce soit de l'aide économique, de l'aide psychologique. Et en fait, attendre, c'est aggraver les troubles. C'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est l'origine, en fait, de notre travail. Il faut éviter que les troubles s'aggravent. Alors, pour éviter que les troubles s'aggravent, il faut... Il faut enlever toutes les barrières, toutes les causes de ce retard, alors qui sont la stigmatisation, mais c'est aussi le manque d'information, le manque de formation, c'est aussi le manque de personnes formées, de professionnels formés. C'est aussi, alors votre auditeur tout à l'heure, Jean-Marie, disait que c'est dans l'hôpital public qu'on peut faire un accompagnement sérieux des troubles psychiques. Et ben, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que l'accompagnement, c'est un accompagnement multidisciplinaire. Il faut plein de spécialistes. Et que dans les libéraux, les psychiatres qui sont installés en ville, ils travaillent tout seuls. Alors, mettre en place un réseau qui permet d'appuyer les personnes qui ont un vécu avec un trouble psychique.
Oui.
C'est complexe parce que il va falloir trouver le moyen de garder l'insertion sociale. Il va falloir trouver le moyen de se réorganiser dans sa vie pour pas vivre la nuit plutôt que le jour. Il va falloir trouver des personnes qui ont le talent pour nous apprendre à utiliser notre mémoire différemment, parce que quelqu'un qui souffre de schizophrénie a pas mal souvent de troubles cognitifs, et ces troubles cognitifs, c'est des parties de la mémoire qui fonctionnent pas bien. Alors on peut déjouer ça, on peut apprendre à utiliser une autre mémoire pour faire la même chose, et donc pour garder son autonomie, pour garder pleine capacité de vivre sa vie, une vie pleine et heureuse, eh ben il faut plein de disciplines différentes. Le psychiatre, c'est un peu le coordinateur, c'est un peu celui qui identifie qu'il faudrait appuyer ici et là, mais c'est pas celui qui peut soigner tout seul. Donc cette équipe multidisciplinaire, on la trouve plutôt dans l'hôpital public, même si aujourd'hui, force est de constater qu'il manque beaucoup de monde dans l'hôpital public.
Il manque du monde.
Alors.
Et on va continuer d'en parler dans un instant. On va faire une toute petite pause et à suivre Aïcha qui nous rejoindra au 04 72 38 20 23 tout de suite. Et toujours nos trois invités jusqu'à 11h, Jean-Christophe Leroy, Anastasia Benzaï et David Martinelli. Bonjour Aïcha.
Bonjour monsieur.
Bonjour,
alors,
bonjour.
Bon, en vérité, je m'appelle pas Aïcha, mais comme j'arrête pas de vous appeler souvent, alors j'ai un peu changé mon nom, voilà. Bon, je suis Adam, j'ai dit que je m'appelle Aïcha. Alors, ce que je tenais à dire, en fin de compte, c'est que moi, j'ai 62 ans cette année. Mmh. Et j'ai constaté que les médecins aussi, tout à l'heure, vous entendez votre...
Parlez bien dans votre téléphone, Aïcha.
Pardon ?
Parlez bien dans votre téléphone, on vous entendait moins bien, là.
Ah ouais, et là, vous m'entendez, monsieur ?
Oui, on vous écoute, Aïcha.
Bon, votre spécialiste, tout à l'heure, il disait qu'il y avait un grand manque d'informations. Et justement, c'est sur ça que je voudrais appuyer. C'est que pourquoi que la schizophrénie, beaucoup de gens en ont peur, et nous, les schizophrènes aussi, nous sommes dans le déni souvent. C'est à cause des médicaments, parce qu'il y a, plus de 30 ans de cela, ils nous faisaient plus de mal que de bien. Alors que maintenant, ça a beaucoup changé, les molécules ont beaucoup changé, et c'est beaucoup plus.
Aïcha? Bon, on n'entend plus Aïcha, décidément. On entend sa joie, en tout cas. Ça fait plaisir au 04 72 38 20 23. David Martinelli, tiens, on peut en parler, ça, des traitements. Comment vous vous êtes traité? Est-ce que vous avez l'impression que depuis votre diagnostic, quand vous avez 28 ans, donc ça fait 12 ans, si je me trompe pas, est-ce que ça a évolué?
En l'espace de 12 ans, pas tant que ça. Alors, à titre personnel, j'ai eu plusieurs molécules différentes. La première m'endormait trop. Donc j'en ai eu une autre après, j'ai demandé à mon psychiatre de changer. Et donc on a changé la molécule et j'en ai un traitement maintenant qui me va tout à fait. Mmh. Après oui, la science a fait des progrès et j'espère qu'elle en fera encore parce qu'il y a encore beaucoup d'effets indésirables sur les traitements qu'on prend.
Oui, c'est pareil pour vous Anastasia Benzaï.
Alors moi aussi j'ai testé pas mal de molécules différentes. J'ai une anecdote un peu rigolote sur une des molécules que j'ai prises. C'est que, en effet secondaire, j'ai eu une galactorée.
Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est une production de lait sans être enceinte.
Ah, d'accord.
Voilà, c'est le genre d'effets secondaires qui peuvent survenir si on nous prescrit une molécule qui n'est pas adaptée à nous, quoi.
Ouais, ben en effet, c'était une anecdote alors sympa, peut-être pas pour vous, mais relativement intéressante à écouter. Jean-Christophe Leroy, c'est impressionnant.
Eh ben oui, et c'est la première raison pour l'arrêt du traitement. En fait, c'est pas le déni, en fait. La première raison, c'est les effets indésirables. Alors. Pourquoi est-ce que on prescrit des médicaments qui ont des effets indésirables comme la galactorée, mais il y a beaucoup d'autres effets indésirables. Par exemple, vous avez des médicaments qui vont vous créer des tremblements. Vous allez avoir des médicaments qui vont vous créer, qui vont vous couper la sensation de satiété. La satiété, c'est le fait d'avoir faim. Alors, si vous avez toujours faim, vous mangez tout le temps et vous prenez beaucoup de poids. Et en fait, beaucoup de personnes qui prennent des antipsychotiques qui sont utilisés dans le domaine de la schizophrénie vont prendre énormément de poids. Alors, pourquoi est-ce qu'on donne ces médicaments? D'abord parce qu'on ne sait pas bien faire mieux. Il faut savoir qu'un médicament qui a certains effets secondaires, alors celui pour Anastasia, donné à une autre femme, ne va pas du tout avoir le même effet. Alors, il y a des médicaments qui sont bien connus pour la prise de poids, et il ne faut pas hésiter un instant, quand on a un effet secondaire, d'en parler avec son psychiatre, et d'exiger de changer. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'arriver à trouver la bonne molécule. Et le réflexe que David a eu d'en parler à son psychiatre,
c'est un bon réflexe.
C'est un super bon réflexe parce que bien souvent, le réflexe c'est d'arrêter le médicament. Ouais. Et puis après, il y a un deuxième problème avec les antipsychotiques, c'est que à un moment donné, on peut se sentir très bien et plus avoir la sensation d'avoir besoin du médicament. Ouais. Et donc on va arrêter. Et on va avoir la démonstration que se sent encore mieux. Pourquoi? Parce que, en fait, le médicament agit très très lentement. Je sais pas si vous savez, quand vous avez mal à la tête, vous prenez un médicament et grosso modo 2 heures après, si votre mal de tête est pas passé, vous êtes exaspéré.
Oui.
Hein, vous dites le médicament a pas marché, je vais reprendre.
Oui.
L'antipsychotique, il faut attendre 4 semaines. 4 semaines pour que finalement, à force d'en prendre tous les jours, à heures régulières et tout ça, ça va commencer à agir correctement sur votre cerveau. Et donc, ce retard, ben, c'est aussi la même chose quand vous arrêtez. Vous arrêtez, c'est pas pour ça que vous allez avoir une décompensation le lendemain. Non, non, non. Là, vous allez plus avoir les effets indésirables. Vous allez vous sentir mieux parce que vous avez plus ces effets indésirables de peut-être qu'ils vont vous assoupir, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez être super content. Et puis vous allez être du coup dans un bon environnement. Il n'y a pas de raison que vous décompensiez, que de nouveau vous ayez des troubles très forts. Mais bon, au bout de 3-4 mois, bah, la plupart des temps, malheureusement, ça va beaucoup moins bien. Et donc, c'est une nouvelle raison de rechuter. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut éviter de rechuter. Plus on rechute, plus on perd de capacité. Et donc c'est pour ça qu'il faut agir précocement, parce qu'on ne veut pas rechuter plusieurs fois. C'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter les médicaments, parce qu'il y a un risque de rechute. Et quand je dis il ne faut pas arrêter les médicaments, ce n'est pas totalement vrai, parce qu'aujourd'hui, des études montrent qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent arrêter les médicaments, mais qu'il y a des protocoles très très particuliers pour arrêter. C'est très lent. Hein, c'est plusieurs années en fait pour arrêter les médicaments. C'est pas à cause d'une addiction, c'est juste à cause du fait que quand on arrête les médicaments, on ne sait pas s'il n'y a pas une dose minimale qui arrive à nous maintenir bien. Et donc il faut tester progressivement pour voir si vraiment on peut s'en passer plus.
Est-ce qu'on peut guérir de la schizophrénie?
Oui, on peut guérir de la schizophrénie. Par contre, on ne sait pas guérir quelqu'un de la schizophrénie. Alors, c'est-à-dire que les médicaments, les médicaments antipsychotiques sont du traitement de symptômes. C'est-à-dire qu'on traite pas l'origine de la maladie. Et donc la maladie ne disparaît pas. Par contre, il y a un tiers des personnes qui vont avoir un diagnostic de schizophrénie, qui vont faire en fait une ou deux décompensations sévères, donc qui vont être on disait tout à l'heure, on peut avoir des pensées bizarres qui vont être bien décalées, qui vont peut-être avoir des hospitalisations, même de longue durée, mais qui vont plus jamais en faire. Et ça, honnêtement, on ne sait pas le reproduire. La médecine ne sait pas le faire. Donc, oui, il y a des gens qui guérissent, mais malheureusement, ceux qui ont déjà fait 2-3 rechutes, ben pour eux, probablement, la maladie, elle s'est installée, elle va pas disparaître comme ça. En revanche, ben ça veut pas dire qu'ils vont pas devenir comme David, chef d'entreprise, ou comme Anastasia. Je sais pas, un jour Anastasia peut être docteur en physique quantique.
Ben pourquoi pas Anastasia? Anastasia, est-ce que vous êtes toujours avec nous?
Oui.
Bon, on vous écoute.
Je disais exactement, c'est ça le but.
Bon, et on vous verra faire des duos avec Alexandre Astier peut-être. Je ferme la parenthèse. David Martinelli, j'aimerais qu'on parle un peu plus de la Maison Perchée et des perchoirs. Ce sont des groupes de parole. Je crois que vous animez parce que vous êtes père aidant. Hein, on rappelle David Martinelli. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? En quoi ça consiste au sein de la Maison Perchée?
Alors, c'est des groupes de parole qui sont réservés aux personnes adhérentes de la Maison Perchée. Donc, on se retrouve tous les 15 jours pendant 3 mois avec des sujets variés pour discuter entre nous de ce qui nous impacte dans notre vie et des solutions qu'on peut trouver pour s'entraider. Donc, c'est un perchoir que je co-anime. Hein. On est deux pères aidants pour environ 7-8 participants.
Et père aidant, qu'est-ce qu'on entend par là?
Père aidant, c'est quelqu'un qui est donc concerné par les troubles, mais qui va utiliser son savoir expérientiel, donc tout ce qu'il a appris du trouble et tout ce qu'il a appris de la maladie, pour aider ceux qui sont pas aussi rétablis, qui peut-être sortent juste d'une crise ou juste qui n'ont pas trouvé le chemin de rétablissement eux-mêmes pour l'instant.
Donc la Maison Perchée, vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a à la fois des programmes d'accompagnement pour les jeunes adultes en situation de schizophrénie, et on y vient, pour les proches, et ça aussi c'est très important.
Oui, il y a un parcours qui s'appelle la boussole à la Maison Perchée, qui est destiné aux proches. Et c'est effectivement très important parce que les proches sont énormément impactés jusque dans leur santé physique par les problèmes de santé et des troubles psychiques de leurs proches.
Mmh. Jean-Christophe Leroy, ça aussi, ça devient vraiment nécessaire pour d'aider les parents, les frères, les sœurs, les grands-parents, bref, tous les proches qui ont avec eux une personne qui est en situation de schizophrénie et qui parfois ne savent pas par quel bout s'y prendre aussi pour l'accompagner.
Et oui. On parlait de déstigmatiser, on parlait de donner plus d'informations. On essaye de le faire auprès de la population générale. Pourquoi ? Parce que dans la population générale, il y a plein de proches, où il y a plein de futurs proches, où il y a plein de personnes qui vont être concernées dans le futur par un trouble psychique. Alors, au départ, c'est perturbant. Hein. Je dois vous l'avouer, je l'ai vécu et c'est un peu perturbant.
Et parce pourquoi ? Qu'est-ce qui est perturbant ?
Quand vous avez une conversation avec quelqu'un qui vous semble venir d'une planète différente, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé.
Si, en soirée.
Ouais. Et en soirée, ouais, exactement. Et à ce moment-là, vous vous dites, mais vous avez une chance. En soirée, le lendemain matin, vous n'êtes plus avec la même personne en principe. Et en tout cas, elle est peut-être plus décalée. Quoique, je vous vois faire un signe que vous hésitez. Mais bon, il se trouve que quand même, quand vous vivez tous les jours des situations décalées, que tous les jours, il y a des difficultés autour de ranger la chambre des enfants, qu'il y a des difficultés autour des repas, qu'il y a des difficultés autour de la télé et tout ça, à un moment donné, c'est fatigant. Et puis, on n'arrive pas à comprendre. On se fait du souci. On ne sait pas comment interagir. N'importe quoi peut amener à des explosions verbales. Et donc, apprendre à communiquer, c'est le premier élément qui est hyper nécessaire pour les proches aidants. D'abord, ils ne sont pas proches aidants, hein, ils sont juste proches. Parce qu'ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose à aider. Ils savent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils découvrent un monde qu'ils ne connaissent pas. Alors, quand on vit ça, on n'a pas tout de suite le réflexe d'aller chercher de l'aide. Or, en fait, quand on va chercher de l'aide, on apprend. On apprend le parcours, on apprend ce que c'est que la psychiatrie, on apprend à ne pas regarder avec des yeux totalement stigmatisés cet univers. On apprend à ne pas s'épuiser. Et tous ces éléments, c'est les éléments qui font qu'on devient un proche aidant qui aide. Parce que la volonté d'aider ne suffit pas. Il faut aussi connaître un certain nombre de techniques. Il faut aussi connaître un certain nombre d'outils. Il faut aussi connaître un peu le réseau. Et il faut aussi comprendre que le trouble, c'est pas quelque chose qui détruit tout. C'est quelque chose qui change un parcours de vie. Mais la vie, elle reste tout à fait possible. Elle reste belle. Et il faut conquérir cette nouvelle vie.
Anastasia Benzaï, vos proches, justement, est-ce qu'ils sont à votre écoute ? Est-ce que vous êtes à leur écoute également ? Est-ce qu'ils sont accompagnés ?
Alors, moi, mes proches, on va dire que c'est ma mère et mon beau-père, plus un certain groupe d'amis qui sont là pour moi. Et c'est pas toujours extrêmement facile, le dialogue. Y a beaucoup d'incompréhension, mais je leur jette absolument pas la pierre, parce que il y a des choses qui sont juste pas compréhensibles. Par exemple, s'il y a un épisode psychotique qui se produit, c'est pour l'entourage, c'est vraiment pas compréhensible ce qui se passe. Et il y a des dialogues parfois qui ne peuvent juste pas se produire. Mais sinon, en général, je suis quand même extrêmement bien entourée. J'ai beaucoup de chance. Ma mère et mon beau-père sont des personnes absolument en or. Et qui essaye le plus possible de m'accompagner, de m'aider. Ma mère, elle passe des heures et des heures au téléphone avec moi toutes les semaines pour m'aider à faire des plannings, pour m'aider à quand j'ai des crises d'angoisse ou des crises tout court où je me sens vraiment pas bien. Elle prend toujours du temps pour parler avec moi, pour essayer de faire en sorte que j'aille mieux. J'ai aussi beaucoup d'amis qui me comprennent et et qui sont là pour moi, tout simplement. Donc, de mon point de vue, je pense que je suis extrêmement chanceuse au niveau de mon entourage, même si c'est pas tout le temps tout beau, tout rose, dans le sens où il y a des choses qu'ils ne peuvent juste pas comprendre. Mais ils essayent de se mettre à ma place et d'être bienveillants.
Vous êtes bien entouré, on l'entend, Anastasia Benzaï. Et vous, David Martinelli, est-ce que ça se passe à peu près bien également?
Ça se passe même très très bien.
Ouais.
Pareil, ma famille, ils ont toujours été là, toujours été vraiment aux petits soins pour moi, même quand j'étais au plus mal. Par contre, c'est sûr que voilà, plus il y a de formation, plus il y a de techniques acquises, d'outils acquis pour aider les personnes en situation de troubles psychiques, plus c'est efficace, effectivement.
Mais il y a encore du travail à faire, Jean-Christophe Leroy, en termes d'accompagnement des proches et bien sûr des personnes concernées. Il y a du boulot, ça avance pour vous, on arrive à la fin de cette émission et vos journées de la schizophrénie aident également en ce sens.
Ah bah oui, ça avance, heureusement.
Bah oui.
Les journées de la schizophrénie, on les a commencées il y a 20 ans en Suisse. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, ce qu'on peut dire, c'est que les clichés, ils restent dans l'idée de la population. Et quand vous allez dans une école, par exemple, ou un lycée, pour parler de santé mentale, vous posez la question aux jeunes, qu'est-ce qu'ils pensent, c'est quoi la schizophrénie? Ils vont vous sortir le meurtrier de la dernière série et tout ça. Il empêche que quand on leur dit oui, mais est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui raconte sa schizophrénie, ils vont être capables de citer David, peut-être bientôt Anastasia. C'est la première fois qu'elle témoigne, donc elle a pas encore cette notoriété.
Oui, on en est très heureux.
Mais y a Jason, il y a Cynthia, il y en a plein d'autres qui ont avec nous témoigné, et ces témoignages, ils ont tellement circulé qu'ils ont transformé la vision des jeunes. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, quand on leur dit, mais est-ce que t'as déjà vu quelqu'un qui souffre de schizophrénie? Peut-être qu'ils connaissent pas quelqu'un en physique, mais ils ont vu ces vidéos. Et parce qu'ils ont vu ces vidéos, ils savent très bien que, en fait, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Il y a le cliché qui reste, puis il y a la réalité qui est là et qui, pour eux, est assez naturelle. Il y a plus besoin de lutter contre des a priori dans la vie de tous les jours. Bon, on est en train de parler des jeunes. C'est pas encore toute la population. Hein. Il va falloir qu'ils vieillissent un peu. Il va falloir qu'ils gardent dans l'esprit que c'est comme ça. Et donc, oui, il reste encore énormément de boulot. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut faire chaque année, à chaque fois qu'on a l'occasion. Et merci, Melchior, d'avoir créé cette occasion aujourd'hui.
Et avec grand plaisir. C'est un vrai plaisir, vraiment. David Martinelli, je rappelle, vous êtes jardinier amateur. Est-ce que vous avez votre propre jardin à la Maison Perchée?
Et non, mais il y a des plantes, on en prend soin.
Ouais, et elles vont bien?
Ça va, tout va bien.
Même s'il fait un peu chaud en ce moment, mais tant mieux.
On les arrose.
Voilà, exactement, c'est ce qu'il faut. On va faire un petit exercice tous ensemble ce matin. Je vais vous demander, David, Anastasia et Jean-Christophe, et moi-même d'ailleurs, de fermer les yeux. Parce que notre chroniqueuse nous a rejoint et elle va nous décrire une photo. Et c'est dur à la radio, décrire une photo. Alors fermez bien les yeux et surtout essayez de l'imaginer. Et oui, comme chaque jeudi, nous retrouvons Stéphanie Gallet qui nous apporte une photo sélectionnée par le CCFD Terre Solidaire, Stéphanie.
Oui, bonjour Malcolm, bonjour à tous, rebonjour. C'est vraiment une très belle photo. Elle est très construite, avec de la profondeur et en même temps un premier plan très présent. Et puis il y a des lignes verticales, des motifs récurrents qui structurent et rythment la photo. Et tout cela nous raconte une histoire.
Alors vous nous décrivez la photo, les différents plans, les lignes, les motifs répétitifs avant de nous raconter cette histoire.
Alors l'arrière-plan, c'est une grande étendue d'eau entouré d'une belle nature, plutôt verdoyante. Quant au premier plan, eh bien nous sommes dans une sorte de petit sous-bois clairsemé. La première chose que nous voyons, c'est sur la gauche de la photo, un homme, il est de dos, il a un jerrycan jaune à la main, il est en contre-jour, et sa silhouette sombre se détache du paysage. En fait, son corps occupe toute la hauteur de l'image. Le photographe a cadré la photo au plus près, et il manque un peu du haut de son crâne et de ses pieds, ce qui donne une impression de mouvement. Il s'avance vers l'eau dont je vous parlais au début, il est en train de rentrer dans le cadre de la photo. Et puis en fait, il n'est pas seul. On n'y fait pas tout de suite attention, mais sur la droite et un peu plus près de l'eau, il y a d'autres jeunes hommes. Ils ont tous un jerrycan posé à côté d'eux, des jerrycans du même jaune pâle lessivé par le soleil. Le voilà, notre motif répétitif, le jerrycan. Il y a d'ailleurs plus de jerrycans que de porteurs d'eau, car c'est bien de cela dont il s'agit, aller chercher de l'eau pour aller livrer ce liquide précieux un peu plus loin, grâce au vélo que l'on voit également de part et d'autre de l'image.
Bon alors, où sommes-nous ?
Eh bien, nous sommes au bord du lac Nagitamo, c'est dans le nord du Burundi. Avec fierté et à la force de leurs bras, ces villageois de la colline Kigoma puisent l'eau nécessaire pour les besoins de leur village.
Pourquoi avec fierté d'ailleurs ?
Eh bien, si les populations peuvent à nouveau se nourrir et s'approvisionner en eau saine et de qualité, c'est grâce à une mobilisation collective et à l'instauration de pratiques agroécologiques pour lutter contre l'érosion des sols. Car ici, hein, on revient de loin, il y a encore quelques années, les pluies dans la région, qui étaient devenues irrégulières, imprévisibles et violentes à cause du dérèglement climatique, eh bien ces pluies provoquaient des torrents qui balayaient les collines. À chaque intempérie, le lac Nagitamo devenait alors trouble et pollué. Les poissons ont commencé petit à petit à disparaître, fuyant vers des cours d'eau plus clairs.
Puisque vous avez parlé de fierté et puisqu'on les voit puiser de l'eau sur cette photo, j'imagine qu'il y a eu une réaction plutôt positive et constructive.
Eh bien, vous imaginez bien, Melchior, en 2016, face à l'insécurité alimentaire qui gagne du terrain, le CCF des Terres Solidaires se mobilise avec son partenaire régional, Inades Formation. Les habitants et les habitantes sont formés et accompagnés et ensemble, ils vont planter des ceintures d'arbustes pour fixer et nourrir les sols. Ils vont creuser des fossés pour évacuer la pluie et puis ils vont bouturer tout autour du lac des umureras.
Des umureras, alors c'est-à-dire ?
Eh bien, c'est une variété de plantes qui permet de protéger et de solidifier les berges grâce à leurs épines. Et en l'espace d'une année, eh bien, les résultats sont spectaculaires. Grâce à ces méthodes simples et respectueuses de l'environnement, l'érosion a été contenue, les plantations protégées et le lac assaini. Les rendements agricoles ont cru de 60% et le lac foisonne à nouveau de poissons.
Effectivement, une belle photo pour raconter une belle histoire et on peut la découvrir. On pourra la découvrir dans quelques minutes sur rcf.fr et puis bien sûr pour en savoir plus sur le Burundi, l'agroécologie, direction le site du CCF des Terres Solidaires. On rouvre les yeux tranquillement, ça fait du bien. Et même d'ailleurs, les yeux fermés, ça nous permet de poser un autre regard sur le monde. Anastasia Benzaï, vous qui aimez l'art, est-ce que l'art vous fait du bien par rapport à votre trouble ?
Alors, l'art, c'est vraiment mon plus grand exutoire. C'est dès que je me sens mal, enfin, je peins quasiment tous les jours. Parce que c'est vraiment mon petit moment juste avec moi et où je peux mettre mes pensées au clair, où je peux sortir mes émotions négatives et les mettre sur la toile. En fait, je prends tout ce qui est en moi et qui me dérange et je le sors grâce au pinceau, grâce au couteau. Et je le mets sur la toile.
Merci vraiment à tous les trois d'avoir témoigné dans cette émission. C'était nécessaire, je crois que c'était la première fois que je parlais de schizophrénie sur RCF. Et ce ne sera pas la dernière. Merci Anastasia Benzaï, merci David Martinelli. Et puis on mettra le lien de la Maison Perchée sur rcf.fr. Et merci beaucoup Jean-Christophe Leroy pour d'avoir parlé des journées de la schizophrénie, de l'association Positive Minders. Merci à toute l'équipe et on se retrouve demain de 9h à 11h sur RCF.